J'invite maintenant Hélène à s'approcher, qui nous fera la lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et les versets 15 à 21.
Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous tenir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous me vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis unie à mon Père, que vous êtes unie à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui.
En relisant avec entêtement, comme nous le faisons, les textes de la Bible qui nous parlent de bonnes raisons d'espérer, on se dit que c'est bien dommage que le monde n'en tire pas plus souvent toutes les conséquences, et que ce monde aurait peut-être pas changé du tout au tout, mais tout de même, un peu au moins, si les messages qui y résonnent avaient été vraiment entendus. Ça n'a jamais vraiment eu lieu. Et il suffit de regarder ce que l'actualité nous apporte chaque jour pour comprendre la phrase choc du prologue de l'Évangile de Jean. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. On en voit tout de suite les différentes applications. Les chaînes d'infos en continu essaient même de nous persuader que le monde n'est pas seulement tragique, ça nous le savons sans avoir besoin de ce flux continu, mais qu'il est important de nous en souvenir à chaque seconde. Le cerveau reptilien, qui explique les comportements dits primitifs, est convoqué quasiment en continu. On voudrait nous empêcher de réfléchir ne serait-ce que 5 minutes par jour, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Chaque jour, la même histoire recommence, la même confirmation sempiternelle que le monde ne tourne pas rond. Tout ça ne nous apprend rien de neuf en réalité, mais ça mobilise en permanence le temps de cerveau disponible. Et si c'est un cerveau inquiet, c'est encore mieux, parce qu'on pourra lui vendre le paracétamol idéologique qui l'aide à dormir. Face à cette déferlante de l'actualité, il serait tentant de faire peser uniquement sur ceux qui nous informent l'impression pesante d'un monde décourageant. Après tout, c'est de leur faute. S'ils nous en parlaient moins, nous irions mieux. Mais la régularité des choses qui tournent mal, la permanence même des raisons qui font que ça tourne mal, n'est pas du tout liée à ceux dont le métier est de simplement nous en parler. Ils font leur métier, après tout. Même s'ils ne le font pas toujours en évitant d'imposer certains choix, ils font leur métier. La connaissance cumulée des désastres renforce dans nos esprits, déjà inquiets de nature, le caractère tragique du monde. Mais cette connaissance ne change rien à la nature de l'action de l'homme qui, dans toutes ses activités, ajoute souvent du chaos au chaos existant. Le monde est comme il est, après tout. Ça ne veut pas dire que nous devrions nous épargner l'effort d'un coup d'œil qui dévoile, quand on le veut bien, les beautés du monde, les actions réparatrices, les mains tendues, la ténacité de ceux qui s'engagent plusieurs années, toute une vie, parfois. Ce sont ce que certains appellent les traces de Dieu, qui font que notre monde est un peu plus habitable qu'il ne pourrait l'être si on le laissait aller. Ce sont elles qui finissent à travers nous par tracer une voie praticable, une route qui mène un peu quelque part, de temps en temps au moins. Notre tâche constante, parfois, souvent même décourageante, est de discerner cette route qui mène quelque part au moment où elle nous apparaît. C'est presque un don de spontanéité ou d'improvisation qu'il nous faut. Ça nous tombe dessus et il faut être prêt. Cette route ne suit pas forcément le tracé des autres voies disponibles. Parfois, elle s'en écarte sensiblement et à d'autres moments même, elle disparaît au point de se réduire à un petit sentier. On se souvient de ce passage du Sermon sur la montagne, entrée par la porte étroite, large la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. En disant cela, Jésus pensait peut-être à la difficulté qui attendait les disciples peu de temps après, et qui nous attend, en fait, nous aussi, traverser la vie sans suivre une route qui nous est imposée, ou que nous nous imposons peut-être par paresse, parce que tout simplement elle se présentait, elle était là, voilà, et que nous n'avons pas besoin d'en chercher une autre. Mais plutôt, et c'est plus difficile, en traçant notre propre trajectoire, celle qui fait passer par justement ces raisons d'espérer de grandes choses, parce qu'il en arrive aussi de temps en temps. Délaisser les grands axes et prendre les petits sentiers. Pour pouvoir trouver cette voie si particulière, il faut savoir dédaigner ou refuser certaines routes. Il faut faire des choix par moments, écarter en particulier tous les faux dieux que nous avons inventés pour meubler notre imaginaire avec des objets que nous apprivoisons et qui nous deviennent familiers. Par exemple, un être figé, caché dans un lieu inaccessible, auquel nous avons tenu pendant très très longtemps, bien préservé d'ailleurs dans sa cachette, de toute contagion avec nos affaires douteuses. Il était à l'abri, celui-là. Mais dont on ne comprend pas, au fond, les raisons de se soucier de nous au point de s'incarner pour venir nous aider. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Un dieu isolé, dans un lieu protégé, un dieu hygiéniste presque, obsédé par les mesures prophylactiques. Celui-là n'a aucune raison de quitter sa zone de confort et de propreté, son asepsie, pour venir arpenter notre gadou avec des bottes en caoutchouc. Il était bien où il était. Le pire de ces objets théologiques mal identifiés, vous savez, il y a les ovnis, les objets volants non identifiés, vous avez les otmis aussi, c'est nouveau, les objets théologiques mal identifiés, ce Dieu tout-puissant, tout gentil à la fois, en est un, nous en avons inventé des rayonnages entiers, hein, et lui se trouve alors au moins aussi empêtré que nous dans la noirceur du monde. Il s'est tellement pris les pieds dans le tapis du tragique que n'a pas vu venir les questions embarrassantes. C'est bête. Mais si tu es tout bon, tout puissant, est-ce que tu ne serais pas aussi, par hasard, un tout petit peu paresseux ou cruel pour nous laisser barboter dans cette mare à canards au risque de nous noyer, et le tout sans bouger le petit doigt en plus, hein ? Tu ne serais pas un peu taquin, hein ? Un dieu lointain que nous avons fini par perdre de vue ne nous sert à rien. Nous ne lui servons à rien non plus, d'ailleurs. Un dieu coincé dans ses contradictions, ça ne nous aide pas non plus. Nous avons bien créé un objet théologique mal identifié, qui, de Dieu, ou plutôt de l'idée que nous nous en faisons, et qui est un être peut-être irresponsable et cruel, et qui dit à certains moments « je ne peux pas faire grand-chose », et à d'autres moments « c'est sûrement dur pour vous, mais ça vous fera les pieds ». Quelle curieuse idée d'avoir fabriqué un truc pareil. Un machin aussi malheureux, aussi coincé dans un dilemme impossible. Quelle conversation d'ailleurs avoir avec l'un ou avec l'autre. L'un ou l'autre de ces deux objets étranges. Avec le premier, la conversation est impossible parce qu'il est trop loin. On a beau crier ou avoir des choses qui portent la voix loin, ça ne suffit pas. Avec le second, dont nous attendons des mesures de sécurité rassurantes, hein, il faut qu'il soit là, fait quelque chose pour nous. Le crime prospère tout de même à cause de son impuissance et parce que lui-même a peur de sortir le soir. Est-ce que nous avons besoin et de l'un et de l'autre ? Pourquoi avons-nous fabriqué ces idées ? Nous en sommes là de notre héritage lourd et pas forcément réutilisable. Quand le texte de Jean 14 justement nous rejoint avec Jésus qui précise les rapports entre Dieu et nous. Une relation qui passe par autre chose que ces objets fabriqués, par un amour inconditionnel. C'est plutôt ce qui est dit dans notre texte, le sans condition. En voilà une de route étroite, un petit sentier pas facile à trouver et à pratiquer, caillouteux, pentu, etc. Pas toujours très praticable. La présence de Dieu se manifeste par notre capacité, à aimer sans faire intervenir nos critères habituels de classement. Voici un Dieu qui sort de son éloignement, puisqu'il passe par nous, il a besoin de nous, ça tombe bien, et qui sort aussi de ses contradictions insolubles. Il n'est, en faisant ça, en attendant cela de nous, il n'est ni lâche ni cruel. Il ne faut pas oublier qu'au chapitre 14, dans l'évangile de Jean, donc très tôt, la marche vers la passion a déjà commencé. Le drame est déjà presque visible. Jésus donne une sorte de testament spirituel. Nous l'avons vu la semaine dernière, dans le chapitre précédent, dans Jean 13. Et maintenant, il en donne en quelque sorte le moyen. Je vous ai dit ce qui va arriver, je vais vous dire maintenant comment. C'est l'Esprit qui reste avec vous. On aurait peut-être attendu quelque chose d'un peu plus substantiel dans la boîte, dans le cadeau. Une fois le bolduc et le papier enlevés, on a quelque chose qui est de l'ordre du souffle, de l'air, du vide dans la boîte. Quelle déception! C'est l'Esprit qui restera avec vous. Merci. On dit toujours merci hein, quand on reçoit un cadeau, même si on n'est pas content. Et cette chose apparemment immatérielle, imperceptible, est la seule chose qui se trouve dans la boîte. Et nous découvrons après tout, en respirant cet air enfermé dans cette boîte, un autre air, une autre respiration, qu'au fond, cette chose est très consistante, elle est même nécessaire à la vie. Après toutes les constructions que nous avons faites d'un Dieu compliqué, véritable empilement d'attributs plus ou moins abstraits, très costaud, hein, très, très solide, avec des sutures, des liens, des agrafes un peu hasardeuses, mais ça tenait quand même à peu près. Les constructions d'un Dieu compliqué ont tenu un moment et on découvre avec ce texte qu'il ne nous reste plus, pour Jean à l'époque comme pour nous aujourd'hui, que l'amour incarné dans nos actes. Il ne reste plus que ça. Ça, c'est solide. Quelle bonne idée d'avoir allégé à ce point notre charge mentale au quotidien. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être le moment de dire merci, même si la boîte était vide, apparemment vide. Il ne nous reste plus qu'à trouver la petite route étroite qui permet patiemment de pratiquer la justice du royaume promis. C'est en tout cas ce que Jésus dit ici. Décidément, certaines choses étaient bien plus simples au commencement. Comment avons-nous pu admettre les idées simples de cette voie étroite, mais sans oser la pratiquer? Nous la reformulons aujourd'hui encore et encore, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi simple, aussi programmatique. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis surtout, comment avons-nous choisi, nous, d'adopter plutôt à la place des idées extrêmement compliquées et toutes impraticables, ou presque? Comment avons-nous pu préférer la seconde à la première des deux solutions? Mystère. Ce qui est certain, c'est que la présence active de Dieu, hein, cet esprit qui est promis, ou le royaume qui déjà s'installe, ou quel que soit le nom qu'on donne à ça, parce qu'au fond, on peut aussi s'échapper et essayer de trouver des synonymes au jargon biblique, ce n'est pas interdit. Ça s'appelle traduire. Et il n'y a aucune autre route que de nous attacher aux commandements et de les pratiquer. Au fond, l'esprit se vide dans la boîte, est-ce que nous avons de plus consistant? Souvenons-nous que les idées que des conciles nous ont présentées comme éternelles, ont fini par vieillir au point qu'elles nous font sourire presque chaque fois qu'on les évoque. La volonté de construire en dur est bien compréhensible, elle correspond à notre esprit inquiet, au besoin de calmer la peur animale qui forme nos comportements primitifs. Nous en avons besoin. Je ne sais pas quel genre de paracétamol pourrait chasser cette migraine humaine permanente. Il nous suffit de nous souvenir que les prophètes du Premier Testament et Jésus dans le Second ne nous ont parlé que d'une incarnation obstinée des idées de justice et d'amour réellement vécues. Des idées sur Dieu, il y en avait déjà à l'époque. Elles n'ont pas très bien vieilli, et elles ont changé. Nous en avons eu d'autres d'ailleurs entre-temps. Elles n'ont pas très bien vieilli non plus, elles disparaîtront aussi, elles ont déjà commencé à le faire. Ce qui restera, c'est la légèreté de l'esprit qui nous accompagne, aussi inconsistant en apparence qu'éternel, comme l'air que nous respirons, donc aussi vital. C'est lui qui nous inspire, c'est le cas de le dire, ce que nous faisons. Si je dis ça, c'est parce que c'est bientôt Pentecôte. Amen.